Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour cher Timothée.
Bonjour cher Mathieu, chères auditrices et chers auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre petit fauteuil de la philo. Il s'agit d'un podcast court où nous vous proposons, Mathieu et moi-même, d'aller plus loin sur les thèmes que nous traitons dans notre plus grande émission, le fauteuil philosophique. Notre précédente invitée était Noémie Cadet, designer dans l'agence Vraiment Vraiment. Elle se définit elle-même comme une designer touche-à-tout et experte en rien. Dans cette émission, Noémie nous avait proposé de questionner la place de l'usager dans la pratique du designer. Pour plus de détails, n'hésitez pas à aller écouter notre échange avec Noémie Cadet. Mais pour l'heure, détendez-vous, installez-vous bien confortablement dans ce petit fauteuil de la philo où nous allons vous parler du design entre consommation et politique dans sa capacité à transformer le monde. Nous avions demandé à Noémie Cadet, durant notre précédente émission, quelle était la capacité du designer à être un vecteur de transformation du monde et de transformation sociale. Mathieu, tu souhaitais revenir sur ce point ?
Exactement, Timothée. Parce que lorsque l'on pense design, en tout cas pour ma part, je pense création, forme, innovation, transformation. Durant notre échange, Noémie Cadet nous a fait nous questionner sur la capacité du designer à transformer le monde, mais également sur notre propre capacité à le faire. Si le designer ne peut pas transformer le monde, comment les individus le pourraient-ils ? Car l'on peut voir que de la fourchette à l'habitat jusqu'à la voiture et à l'avion, en passant par le management, les affiches et les outils numériques, le design participe au changement de la société. Et ce, à énormément d'échelles et de niveaux. Il y participe car il permet la création d'organes artificiels, d'organes extrasomatiques, c'est-à-dire en dehors du corps. Des organes qui vont venir normer nos usages, nos pratiques, nos rapports sociaux, et tout notre mode de vie. Que ce design soit d'ailleurs du design de produits, du design graphique, de textile, d'ingénieur ou même organisationnel. Mais le designer répond à une demande, à une commande lorsqu'il crée ou lorsqu'il participe à la création d'un projet de design. Et c'est l'essence du projet, le sens de ce projet qui va impacter et proposer de nouvelles normes. Pour cela, comprenons bien que le designer est un être humain et dans sa création d'objets techniques, nous pouvons voir que l'être humain est pharmacologique. C'est-à-dire qu'il produit des remèdes qui sont aussi des poisons. Le designer n'échappe pas à cette règle. Entre une demande de mobilier urbain, disons au hasard un banc anti-SDF, et une demande de banc abri pour les sans-abri, nous ne sommes pas dans la même proposition vis-à-vis de la société. L'une d'entre elles est exclusive, alors que la seconde est davantage inclusive et participe à la création d'innovations sociales. Mais ce n'est pas le designer qui choisit quel type de banc produire. Il en définit de nombreux aspects, comme par exemple la couleur ou la forme, mais pas la finalité. Le designer est donc en réalité quelque part soumis au désir de son commanditaire, avec une marge de manœuvre très relative. Bien entendu, des projets de design indépendants peuvent voir le jour avec des modèles tout à fait étonnants et innovants, mais ce n'est pas vers cette pratique qu'est dirigée la majorité de l'effort dans le secteur du design. Même si des designers, à titre individuel, pourraient avoir un souhait différent. Ce n'est donc pas le designer qui transforme nos usages, mais bien le commanditaire à travers sa commande. Le commanditaire est celui qui commande au sens de diriger. Il dirige l'action du designer en faisant appel à son expertise. Le commanditaire peut aussi être dans la co-construction avec le designer ou encore lui laisser une carte blanche et proposer des projets éthiques. Le commanditaire n'est pas mauvais en soi, il est aussi consommateur et individu. Ainsi, pour nous diriger vers un monde plus respectueux des êtres vivants et non vivants dans leur ensemble, ce sont les ambitions des commanditaires qui doivent converger vers ces objectifs, ainsi que ceux des designers et des consommateurs, bien évidemment. Noémie Cadet nous évoquait cette particularité de l'engagement du designer très justement lors de son passage dans notre émission.
Et concernant le rôle du designer dans cette transformation du monde, je ne sais pas si je l'aurais... C'est vraiment... c'est ambitieux, enfin, c'est beau dit comme ça. Je ne suis pas sûre d'avoir déjà vraiment pensé à ça comme ça. Je dirais que dans les coulisses de la fabrique des projets, on a plutôt l'impression, même si on traite de belles problématiques parfois, on a plutôt l'impression que chaque projet, c'est un peu une goutte. C'est une goutte dans la mer. Et que du coup, c'est plus toutes ces petites gouttes qui vont faire que finalement, oui, bon, bah, à un moment donné, plein de gouttes, ça fait une mer. Je suis pas sûre que la transformation, elle est très douce.
Et pourtant, malgré tout cela, le designer façonne les organes artificiels extrasomatiques de notre quotidien, et donc nos usages et toute une partie de nos codes sociaux. Pour tendre vers cet intérêt général dont nous parlait Noémie Cadet, il faut alors une réorientation des dessins EIN du design, lorsque ceux-ci ne se dirigent pas vers cet intérêt. Que ces objectifs soient commandés par le plus large dénominateur commun, c'est-à-dire par le respect, mais surtout la considération du monde commun, tel que le théorise la philosophe Corinne Pelluchon, notamment dans son ouvrage « L'éthique de la considération » aux éditions Seuil, paru en 2018. Un monde commun représentant les générations passées, présentes et futures, incluant le vivant et le non-vivant, comme un ensemble de destins liés. Dans ce cas de figure, diriger vers le monde commun l'action du designer ne sera plus seulement une goutte d'eau dans l'océan. Bien entendu, les designers ne sont pas les seuls à être entravés par la commande. Nous pouvons par exemple penser aux architectes et aux ingénieurs, et même aux philosophes et aux artistes.
Mais Mathieu, le tableau que tu dépeins demeure assez obscur. Ne pourrais-tu pas rajouter une touche d'optimisme ?
Bien sûr, Timothée, car il y a des designers, des artistes, des architectes, des penseurs, des économistes, pour ne citer qu'eux, qui travaillent en direction de ce monde commun. La commande ne les entrave pas, mais les libère. D'autant plus qu'il n'y a pas que le commanditaire et son cahier des charges qui peuvent venir commander une action positive en direction du monde commun. Ce n'est qu'un aspect empêchant le designer de transformer le monde à la hauteur de ses moyens. Par exemple, le consommateur, qu'il soit usager ou client, ne voudra peut-être pas utiliser les créations du designer, il en détournera potentiellement les usages. Le politique ne sera peut-être pas en adéquation avec les valeurs que porte tel ou tel type de projet. La problématique est toujours celle des moyens, de tout type, associés à ces projets vecteurs d'innovation sociale et environnementale. Et c'est là que s'établit un lien étroit entre le politique et la pratique du designer, lien que nous évoquait justement Noémie Cadet lors de son passage dans notre émission, et dont tu vas nous parler juste après, Timothée. Pour l'heure, écoutons un extrait de Noémie Cadet dans Le Fauteuil philosophique.
Ou quand on fait des projets qui s'inscrivent dans des établissements recevant du public, dans le cadre de l'action publique, il y a beaucoup de normes qui bornent et limitent les possibilités qu'on a pour faire projet. Mais le tout, c'est de réussir aussi à composer avec ces normes et en essayant aussi de les faire un peu bouger. Parfois, parce que des fois, il y a des normes qui sont là depuis de nombreuses années et qui sont pas, qui sont plus à l'ordre du jour ou qui correspondent plus au monde dans lequel on vit. Voilà, en 2021, il y a des choses qui bougent très vite et les lois, elles bougent pas aussi vite et les normes non plus. Du coup, c'est un peu tout l'enjeu, réussir à composer avec, tout en essayant de faire bouger les lignes jusqu'à si on peut réussir à faire sauter certaines des normes qui sont présentes et qui sont plus d'actualité.
Merci Mathieu. Comme tu viens de le dire, nous allons à présent expliciter plus en avant les liens que l'on peut établir entre le design et le politique, dans le sens des rapports de pouvoir qui se jouent entre différents groupes ou institutions et qui façonnent notre société. Ce lien paraît évident, après tout ce que tu viens de dire, lorsque l'on considère le design non pas comme une activité qui vise à créer ou transformer des objets pour les rendre plus esthétiques ou plus « branchés », entre guillemets. Il faut envisager le design comme un processus de transformation, de création d'objets ou de services, et dont l'activité n'est pas centrée que sur la fonctionnalité, mais aussi sur l'usage. Ainsi, Herbert A. Simon, économiste et sociologue américain, définit le design de la manière suivante. Il porte un, je cite, « caractère universel, dans le sens d'une activité intellectuelle de conception » qui produit des artefacts matériels pour changer une situation existante en une situation préférée. » Fin de citation. Plusieurs choses sont à souligner dans cette définition. Remarquons tout d'abord qu'ici, le design est abordé sous un prisme global, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois la conception et la création. Cela signifie que toute production du design procède d'un projet préalable qui définit ses conditions matérielles d'existence, ses fonctions, ainsi que son ou ses usages, en vue de répondre à un certain but. On comprend ainsi que ces objets ou ces services ne sont pas neutres, car ils naissent dans et sont déterminés par un contexte économique, social ou politique précis. Le second point qu'il est important de relever dans la définition de Simon correspond à la deuxième partie de la phrase « Le design change, je cite, une situation existante en une situation préférée ». Rien de plus clair. Le design est transformateur et porte en lui-même un objectif d'amélioration du monde pour ceux qui y vivent. Encore une fois, cela remet en cause la prétendue neutralité de cette activité. Entendons que processus universel, pour reprendre le mot de Simon, est transformateur, le design est politique et ne se contente pas de créer des objets dénués de signification, il façonne notre environnement, nos usages et notre manière d'habiter le monde.
Tout cela est vraiment très intéressant, Timothée. Peut-être un peu théorique et j'aimerais comprendre comment la dimension politique du design se manifeste concrètement.
Très bonne question, j'allais y venir. Pour le voir, il suffit dans un premier temps de revenir à notre entretien avec Noémie Cadet. Le design de service, et plus particulièrement de service public, en est un bon exemple. Comme nous l'avons expliqué, les designers de service répondent toujours à une commande et leur marge de liberté par rapport à celle-ci est limitée. Le service en question est donc à la fois décideur et objet de sa propre transformation et cela s'inscrit dans un mouvement de société plus global. La prise en compte croissante de l'usager dans ce domaine l'illustre bien. Nous nous dirigeons vers un modèle de plus en plus horizontal qui tend à s'adapter aux individus pour leur offrir un service sur mesure au même titre que ceux que peuvent proposer les entreprises privées. L'usager est mis au centre de la préoccupation des services publics, de la même manière qu'un client. Politiquement parlant, cela a une signification. On peut le comprendre comme une volonté d'être plus inclusif, mais il est difficile de le séparer du processus de libéralisation des services publics qui se déroule depuis plusieurs dizaines d'années. D'autant que si l'usager client, pour reprendre l'expression de Serge Vallon dans son article intitulé « Les quatre visages de l'usager » est au centre des préoccupations des services publics, il est maintenu dans une position de consommateur dont on prélève l'avis via de simples enquêtes d'opinion. Cette ouverture vers l'usager ne serait donc réellement démocratique que si elle était poussée plus avant en prenant la forme d'un haut degré de participation des usagers dans la construction et la gestion des services dont ils sont les bénéficiaires. Politique et design se mêlent de plus en plus depuis le début des années 2000. En 2020, les chercheurs Alauzen et Malivelle ont publié un article intitulé « Le design est-il en passe de devenir une science de gouvernement ?» Ils y retracent les liens qui se sont développés entre la 27e région, une association de design, et les instances successives chargées de la modernisation de l'appareil d'État de 2008 à 2019. Entre financement et participation active de designers de l'association à la transformation des méthodes en place dans les services gouvernementaux, les méthodes du design ont été largement mobilisées pour réformer l'État dans le sens de l'usager, et ce malgré les différentes orientations politiques des gouvernements qui se sont succédées pendant ces années. Les auteurs concluent ainsi que l'utilisation du design a permis de, je cite, « mettre en forme une véritable ingénierie politique de la réinvention des liens entre État et citoyens ». Pour clore le sujet, on peut donc dire que le design est politique à la fois dans le sens du politique, c'est-à-dire des rapports de pouvoir qui parcourent notre société, mais aussi dans le sens de la politique, c'est-à-dire des différents projets de société qui le mobilisent et s'affrontent dans l'espace public.
Et cela nous ramène au début de notre questionnement, quelle est la marge de manœuvre du designer et également des individus pour transformer le monde ?
Mais c'est vrai, aurions-nous quelques éléments de réponse à fournir à nos auditeurs quant à la potentielle capacité des individus à transformer le monde ?
C'est une question si vaste, mais je te propose que nous nous y intéressions à travers le phénomène de l'individuation.
Pourquoi pas ? Pourrais-tu donc nous en dire un peu plus sur l'individuation ?
Alors, nous pourrions trouver comme origine de l'individuation le conatus, un concept développé par Spinoza dans l'éthique, qu'il définit comme, je cite, « l'effort par lequel toute chose tend à persévérer dans son être ». Il y a au centre du concept de l'individuation cette notion d'effort et de force de transformation que possède l'individu en lui. Au-delà du conatus, l'individuation est donc un phénomène qui est à la fois psychique, le « je », collectif, le « nous », et technique, reliant le « je » au « nous ». L'individuation est un phénomène qui n'est effectif que si le psychique, le collectif et le milieu technique évoluent ensemble, se transformant de concert. L'individuation, c'est donc la force de transformation conjointe du psychique, du collectif et du milieu technique. L'on est donc en potentialité et en capacité constante de s'individuer. Nous sommes d'ailleurs potentiellement en train de nous individuer ensemble au cours de cette émission.
Mais Mathieu, pour être certain de bien comprendre, l'individuation, est-ce que c'est la même chose que l'individualisme ?
Et justement, faisons attention Timothée, car l'individuation n'est pas de l'individualisme. La première s'intéresse à la singularité de l'individu avec le collectif et son milieu. tandis que la seconde propose que l'individu prévale sur le collectif et son milieu, et finalement sur tout le reste. En ce sens, l'individualisme contemporain semble produire de la désindividuation, il semble priver les individus de leur capacité à s'individuer, à se transformer avec leur milieu, le collectif et la technique. Ce milieu que nous pourrions même envisager comme le monde commun. Il inclurait dès lors les vivants, les non-vivants et leurs générations présentes, futures et passées.
Revenons donc au point de départ de notre propos. Comment s'imbrique donc le design dans cette réflexion sur l'individuation ?
Eh bien, comme tu le disais, Timothée, le design est un processus de transformation. Et donc, en imaginant un design réfléchissant aux mécanismes d'individuation et les incluant dans sa démarche, nous pourrions potentiellement expérimenter un design étant devenu une force de transformation individuelle, collective et technique. Un design que nous pourrions envisager comme contributif, avec une activité dirigée vers la considération du monde commun. Un design transformant le monde.
Eh bien, merci Mathieu.
Merci Timothée.
Cette émission se termine et nous vous remercions de vous être individué avec nous. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à suivre le Fauteuil Philosophique sur tous ses réseaux, à aimer et à partager notre contenu. Nous revenons bientôt pour un nouvel épisode du Fauteuil Philosophique suivi d'un petit fauteuil de la philo, et en attendant, n'ayez pas peur de philosopher.